Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. La Maison Blanche trouve les déclarations du Hamas sur une éventuelle trêve à Gaza pas très encourageantes, mais le mouvement islamiste palestinien n'a pas encore donné de réponse officielle. Washington estime que l'offensive annoncée par Israël sur Rafah n'est pas imminente.
Après des menaces d'attentats formulées par le groupe État islamique contre la Ligue des Champions, les pays menacés, dont la France, augmentent leur sécurité.
Et nous reviendrons à la fin du journal sur la mort du physicien britannique Peter Higgs, prix Nobel en 2013. C'est une erreur, dit Joe Biden à propos de la stratégie militaire israélienne à Gaza. C'est l'une des plus fortes critiques émises par le président des États-Unis à l'égard du premier ministre Benjamin Netanyahou. Joe Biden qui avait espéré une trêve dans l'enclave palestinienne assiégée au début du Ramadan. Mais le mois de jeûne se termine aujourd'hui et les bombardements continuent malgré les discussions du week-end dernier. La Maison-Blanche reconnaît qu'elle n'est pas très optimiste par la voix de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, c'était hier en conférence de presse, écoutez.
Comme vous le savez, le directeur de la CIA, Bill Burns, était au Caire dimanche. Il y a eu une session marathon qui s'est prolongée dans la nuit entre les États-Unis, Israël, le Qatar et l'Égypte. Le Qatar et l'Égypte ont échangé avec le Hamas et nous avons vu Israël faire quelques pas en avant en termes de ce qu'ils mettent sur la table. Et bien sûr, nous avons vu les déclarations publiques du Hamas qui ont été, disons, pas très encourageantes. Mais j'ai parlé avec le premier ministre du Qatar, il n'a pas encore eu de réponse du Hamas. Je lui ai demandé d'essayer d'obtenir une réponse de leur part le plus rapidement possible. Et quand nous aurons plus d'informations, nous vous les communiquerons.
Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale à la Maison Blanche. De son côté, Benjamin Netanyahou l'assure. Une offensive sur Rafah où sont concentrés près d'1,5 million de Palestiniens près de la frontière égyptienne, essentiellement des réfugiés, aura bien lieu. La date est même arrêtée, affirme-t-il. Mais vu la réalité du terrain, Eric Biegala, ce ne sera pas avant plusieurs semaines au moins.
Avec le repli de la 98e division de Khan Younes, annoncée dimanche et qui est déjà en bonne partie réalisée, autour de 10 000 hommes sont en train de quitter Gaza avec leurs blindés lourds, l'armée israélienne ne dispose plus des moyens humains et matériels nécessaires pour lancer une attaque au sol sur la zone fortement urbanisée et très densément peuplée de Rafah. Les forces armées devraient laisser sur le terrain quelques éléments de leur 162e division, notamment la brigade Nahal, quelques 5-6 000 hommes, qui prendront position autour de ce que l'on appelle le couloir Netzarim, un axe nouvellement construit qui coupe la bande de Gaza en deux, d'est en ouest, la partageant entre Gazaville au nord, le centre de l'enclave Khan Younes et Rafah au sud. La brigade Nahal, c'est à peine 15% du volume de forces engagées au plus fort des combats. Cela ne veut pas dire que les tirs sur le sud de l'enclave et notamment sur Rafah vont cesser, mais il s'agira de tirs plus ciblés, opérés par l'aviation et visant en priorité les cadres du Hamas ou du djihad islamique s'ils sont repérés. À moins, bien sûr, d'un cessez-le-feu. Ce repli des forces israéliennes devrait également permettre un retour chez eux des Gazaouis déplacés à Rafah ou leur transfert vers des camps de déplacés qui restent à construire le long de la côte. Et c'est d'ailleurs une condition sine qua non d'un possible futur assaut sur Rafah que la population de l'agglomération en ait été évacuée. La radio de l'armée israélienne pronostiquait lundi une pause de 6 semaines pour ce faire.
La plus haute juridiction de l'Arizona valide une interdiction quasi totale de l'avortement. Le texte est vieux de 160 ans. Décision symbolique avec d'importantes implications électorales à quelques mois de la présidentielle dans un état clé du sud-ouest des États-Unis. On y reviendra juste après ce journal dans les échos de la planète avec Héloïse Roger. Des années de division, de longues tractations et finalement le Parlement européen vote aujourd'hui sur une grande réforme politique migratoire de l'UE. Le pacte sur la migration et l'asile va s'appliquer dès 2026. Il comprend des contrôles renforcés, un filtrage obligatoire préalable à l'entrée d'un migrant dans l'Union européenne ou encore un tri. Ceux dont on considère qu'ils ont peu de chances de répondre aux critères pour obtenir l'asile seront retenus dans des centres près des frontières.
6h34, suite du journal Margot Delpierre. La sécurité sera renforcée à Paris ce soir pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions PSG Barcelone après des menaces du groupe djihadiste État islamique.
Oui, et cela quelques semaines seulement après les attentats de Moscou et à 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Hier soir, une réunion s'est tenue autour du ministre de l'Intérieur en présence de la DGSI, la Direction Générale de la Police Nationale et la Préfecture de Police face à la menace terroriste, Gaëlle Joly.
Dans l'un de ses messages diffusés sur les réseaux sociaux, un combattant de Daesh masqué, muni d'un fusil d'assaut, pose devant la photo de plusieurs stades, dont le Parc des Princes à Paris ou le Metropolitano Arena à Madrid, qui vont accueillir ce soir deux matchs des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, avec cette mention « Tuez-les tous ». Le message intervient dans un contexte de menaces élevées sur notre territoire à 100 jours des JO et d'une cérémonie d'ouverture inédite sur la scène. Le dispositif Vigipirate a été relevé le 24 mars dernier à son niveau maximal urgence attentat et ce, deux jours après l'attaque djihadiste près de Moscou qui a fait 144 morts. L'organisation État islamique est responsable des 8 derniers attentats que la France a connus, a rappelé Gérald Darmanin. Mais à ce stade, aucune menace terroriste caractérisée ne pèse sur la cérémonie d'ouverture des JO.
Gaëlle Joly, dernier tour de négociation depuis lundi au MEDEF. Mais cette nuit, les syndicats ont dressé un constat d'échec. Après 3 mois et demi de discussions en tout sur l'emploi des seniors, ce qui compromet la validation par le gouvernement de la convention d'assurance chômage négociée à l'automne, le texte final soumis à la signature par les organisations patronales ne crée aucun droit nouveau pour les salariés, regrette la CFDT. Nous y reviendrons dans le journal de 7h avec Anne Lorchouin. Il était un scientifique doué dont la vision et l'imagination ont enrichi notre connaissance du monde, a réagi l'Université d'Édimbourg, qui perd l'un de ses professeurs émérites. Peter Higgs, physicien britannique, est mort lundi. Il avait 94 ans. Il avait obtenu le prix Nobel en 2013. Il a donné son nom au fameux boson de Higgs, Guillaume Fariol.
Surnommé la particule de Dieu, le boson de Higgs est considéré comme la clé de voûte de la structure fondamentale de la matière. Il est tout autour de nous, infiniment petit, à l'origine d'un champ comme une sorte de colle qui donne une masse aux autres particules et donc à tout ce qui nous entoure. Comment expliquer ce phénomène simplement ? Difficile de répondre, admettait Peter Higgs lui-même. Le scientifique a d'abord déduit théoriquement l'existence de ce boson en 1964. Il a fallu attendre 2012 pour confirmer sa présence grâce à l'accélérateur de particules de Genève. « Je crois que nous l'avons », annonce le patron du CERN à l'époque devant un parterre de scientifiques dont Peter Higgs. Je n'imaginais pas que cela arriverait de mon vivant, commente le physicien. L'année suivante, il reçoit le prix Nobel de physique. Injoignable, c'est une ancienne voisine qui lui apprend dans la rue qu'il vient de décrocher la récompense scientifique suprême.
Guillaume Fariol, le temps aujourd'hui sera plutôt ensoleillé sur une grande partie du pays. BI Météo France prévoit quelques nuages en Bretagne et en Normandie notamment. Les températures 12 degrés cet après-midi à Cherbourg, jusqu'à 14 à Lille et Strasbourg, 16 degrés à Paris et Bordeaux, 18 à Montpellier.